c'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Harwich, dans la mer du Nord.
Les DJ de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 4 minutes past 9, Radio London Time, the station with kicks on 266.
Au milieu des années 80, le paysage de la radio a beaucoup changé par rapport aux années 60 et au début des radios offshore. Pourtant, ces stations flottantes ne semblent pas obsolètes. Depuis le Ross Revenge, Radio Caroline séduit toujours un large public et elle semble plus écoutée qu'un grand nombre de radios locales terrestres. On pourrait croire que la station vit sur sa renommée. Mais Radio Monique, qui est beaucoup plus récente, a aussi une forte audience auprès du public néerlandais. Le MV Communicator, qui avait été immobilisé après la capitulation de l'équipe de Laser 558, a réussi à reprendre la mer. Et la radio est revenue sous un nouveau nom d'appel, Laser Hot Hit, le 7 décembre 1986. Mais un peu plus de 4 mois plus tard, le MV Communicator est à nouveau silencieux après que les émissions aient été interrompues à de nombreuses reprises. En vertu d'une loi européenne destinée à élargir les compétences des services des douanes, la limite opérationnelle de la police maritime est augmentée, obligeant les navires radio à s'éloigner encore un peu plus des côtes. Le 23 juillet 1987, Radio New York International débute des essais de transmission depuis le Sahara, ancré dans les eaux internationales au large de Long Island. C'est un événement important dans l'histoire des radios offshore, car le paysage radiophonique américain ne ressemble pas du tout à celui de l'Europe. Il est riche de plusieurs centaines de radios s'adressant à tous les publics. De plus, la Federal Commission of Communication a montré par le passé sa détermination à faire taire tout émetteur marin en réduisant au silence en quelques jours Radio Free America en 1973. Malgré tout, une équipe a donc décidé de relever ce défi. Mais combien de temps pourra-t-elle tenir ?
And we're up to 10 o'clock. Good evening, good evening. We're going to be here for a little while longer here at RNI, Radio New York International. And I'm Ivan Jeffries, and hope you're enjoying the test so far. And we're broadcasting from the good ship Sarah, off on the Atlantic Ocean near Long Island, or Long Island as you prefer. On the AM band 1620, FM band 103.1. On the shortwave, 6240 kilocycles, and on the long wave, 190 kilocycles. And we're going to do some tests for the next week or so, so be prepared, as they say in the Boy Scouts, be prepared. And if you want to respond to, you know, if you're listening to us, you know, respond to us, fan mail, whatever, if you like the show, or you don't like the if you like the test, excuse me, or you don't like the test, or...
Le 25 juillet 1987, 2 jours à peine après avoir débuté des essais de transmission, le Sahara qui héberge Radio New York International est abordé par un patrouilleur des gardes-côtes, mitrailleuse dirigée vers le navire radio. Les fonctionnaires exigent de monter à bord. Dans un premier temps, Alan Weiner et Ivan Jeffrey, qui sont seuls à bord, refusent. Mais les gardes-côtes leur signalent que s'ils n'obtempèrent pas, le Sahara sera remorqué de force. Ils affirment vouloir uniquement vérifier les papiers du navire et sa conformité aux normes de sécurité. Mais les deux animateurs apprirent que les gardes-côtes étaient accompagnés par des agents de la Federal Commission of Communication, mais aussi par des agents des services de l'immigration et du département des narcotrafics. Rien que ça. Le navire fut fouillé et les fonctionnaires de la FCC informèrent Alan Weiner que les transmissions devaient cesser. Weiner répondit que la loi sur les transmissions radio de 1934 ne s'appliquait pas en dehors des frontières américaines et que comme le Sahara était en eau internationale, les émissions n'étaient pas illégales. Les fonctionnaires quittèrent le navire, mais Jeffrey et Weiner furent un peu ébranlés par cette visite et ils ne reprirent pas immédiatement leurs essais de diffusion. Après réflexion, ils décidèrent qu'étant dans les eaux internationales, ils n'avaient aucune raison de se laisser intimider par les agents de la Federal Commission of Communication. Et ils décidèrent de reprendre les essais de diffusion dans la soirée du 26 juillet. La visite des autorités n'avait pas passé inaperçue. Et dès le lendemain, de nombreux médias affrétèrent des bateaux pour que les journalistes montent à bord du Sahara. un journaliste du Village Voice, R.G. Smith, resta sur le navire radio afin de pouvoir raconter à ses lecteurs la vie à bord d'une radio offshore. Jeffrey et Weiner ne boudèrent pas cette publicité, d'autant qu'ils se doutaient que la FCC n'avait pas dit son dernier mot. Le 27 juillet à 18h, Radio New York International reprit donc des essais de diffusion et comme il n'y avait qu'un seul problème sur l'émetteur en ondes moyennes, il fut décidé de poursuivre les essais jusqu'à 2h du matin afin d'obtenir une garantie totale de fiabilité du matériel.
Here we are at Radio New York International testing and what a test it is. The test is going swell. I understand we're getting high points and the marks are good, okay? So watch for those marks because marks are good to have, especially when you're in Germany because you can use them to buy things, right? Hey, I didn't know there was going to be a squall. I'm scared of squalls. Oh, man, I guess we'll have to ride it out, okay? You and I together in gymnasium. We'll all ride the squall on Radio New York International as we test. Raindrops.
Ce soir-là, tout fonctionna à merveille et il fut décidé que la radio serait officiellement lancée le 1er août. Mais quelques heures à peine après la fin des essais de transmission, le 28 juillet à 5h30, un patrouilleur des gardes-côtes aborda à nouveau le Sarah et interpella par porte-voix les hommes à bord qui dormaient. Les gardes-côtes annoncèrent vouloir saisir le navire, y compris par la force si nécessaire, affirmant qu'ils avaient l'autorisation du gouvernement du Honduras. Pour préserver le bateau et l'équipage, Weiner décida de ne pas opposer de résistance. Des agents montèrent à bord et signifièrent à tout l'équipage qu'il était en état d'arrestation pour violation du droit international, sans préciser quelle loi avait été violée. Les hommes furent menottés et amenés sur le pont. Pendant ce temps, des agents de la FCC démontaient le matériel du studio et sectionnaient tous les câbles à l'aide de pinces et de scies. Au bout de 4 heures, les hommes du Sarah furent transférés sur le patrouilleur et on les informa que le navire allait être remorqué. Weiner, Jeffrey et le journaliste du Greenwich Village Voice eurent beau protester en signalant que leurs droits les plus élémentaires avaient été violés et qu'en conséquence, ils réclamaient de pouvoir contacter un avocat, les gardes-côtes et fonctionnaires de la FCC ignorèrent leurs protestations. Vandalisme délibéré et piétinement du droit international, voilà à quoi se résume l'intervention des autorités américaines en ce 27 juillet 1987. Mais le Sarah était solidement ancré et les gardes-côtes ne parvenaient pas à libérer l'énorme ancre. Après 3 heures de résistance de celle-ci, ils décidèrent de demander l'intervention d'un second bateau pour transférer les hommes à terre alors que le patrouilleur resterait près du Sarah. À New York, on avait suivi toute la journée l'intervention contre la radio flottante et lorsque les 3 hommes arrivèrent à quai, ils furent accueillis par une foule importante de sympathisants et de journalistes. Rapidement, l'intervention des autorités va être contestée par les avocats, car aucun mandat de perquisition ni aucun autre document n'a été présenté pour justifier l'intrusion à bord du Sarah. Les gardes-côtes ont prétendu avoir un mandat du gouvernement du Honduras, mais c'était faux. Malgré tout, les 3 hommes sont inculpés de contestation de l'autorité de la Federal Commission of Communication, qui équivaut à un complot visant à entraver le fonctionnement de l'État. Ils sont également accusés de violation de l'accord de 1984 de l'Union internationale des télécommunications. Le problème est que cette dernière accusation risquait fort de tomber rapidement, car les États-Unis, comme d'autres pays, n'avaient pris aucune disposition sur le plan national pour faire appliquer cet accord. On imagine bien qu'un avocat aurait au fait de démolir l'argument. On note ici, et ce n'est pas le moindre aspect de l'affaire, qu'aucune accusation de violation des lois de la FCC régissant la radiodiffusion à l'intérieur du territoire américain n'a été retenue. Et pour cause, le bateau émetteur se trouvait dans les eaux internationales. Si procès il y avait, il risquait de se retourner contre les accusateurs sur plusieurs points. De fait, lors de l'audience suivante, le magistrat instructeur réclama des explications aux fonctionnaires de la FCC sur leur légitimité à intervenir hors du territoire américain. Les réponses furent plus que confuses. le 27 août, quelques minutes avant une nouvelle audience, Weiner, Jeffrey et Smith furent informés que le parquet abandonnait toutes les charges. Les autorités avaient enfin compris qu'étant donné le dossier, l'accusation risquait de changer de camp. De fait, à peine informé de la décision, Alan Weiner décida de porter plainte contre l'État américain pour arrestation illégale et destruction volontaire de matériel. Lui et ses associés formèrent immédiatement le projet de relancer Radio New York International. Il fallait à la fois récupérer le bateau et trouver des fonds. Un appel aux dons fut lancé parmi les nombreux soutiens de la radio. En mer du Nord, depuis quelques mois, Radio Monique connaît d'importantes difficultés à maintenir la régularité de ses programmes. Des émissions sont bien enregistrées dans les studios à terre, mais elles ne parviennent pas au Ross Revenge à cause de la surveillance maritime. À bord, on va dans un premier temps avoir recours à la rediffusion massive d'anciens programmes, puis en septembre, la durée des émissions en direct sera prolongée, complétée par de longues séquences de musique non-stop. La situation s'améliora toutefois un peu début octobre, avec des ravitaillements qui parvinrent à déjouer la vigilance des autorités. Toujours stationné dans les eaux internationales proches des côtes nord-est de la France, le MV Communicator va se rapprocher des côtes britanniques. Tout d'abord, près de Harwich, puis il va regagner son mouillage d'origine, en face de Nockdy, dans un territoire qui va bientôt passer sous contrôle de la police britannique. Mais comme le navire est silencieux, il ne contrevient à aucune loi. Le but de ce déplacement était apparemment de permettre à de nouveaux acquéreurs potentiels d'accéder au navire. Le MV Communicator pourrait bientôt abriter une nouvelle radio. En fait, on parla de deux stations. Harmony 981, qui serait une radio entièrement automatisée, ne diffusant que des programmes préenregistrés, et Starforce 576, diffusant une playlist identique à celle de Laser Hot Hit. Initialement, le navire devait visiblement quitter la mer du Nord pour la Méditerranée afin que des travaux de réhabilitation soient effectués loin de la surveillance britannique. Mais les nouveaux propriétaires, apparemment pressés de démarrer les programmes, décidèrent que tous les travaux se feraient en mer du Nord. Mais en prévision de l'entrée en vigueur de l'extension des eaux territoriales, le MV Communicator dut se déplacer. Et le 30 septembre, il quitta son ancrage pour stationner près d'Inner Gabar, à 20 milles au large de Felixstowe. Mais ce mouillage était très exposé, et une première tempête confirma que le bateau serait très chahuté avec l'arrivée de l'hiver. Le Communicator se rapprocha donc de Felixstowe pour finalement revenir près de Nockdy. Les 15 et 16 octobre, un violent ouragan provoqua des dégâts qui furent vite réparés. Fin octobre, l'émetteur était opérationnel. Et le 31 octobre, entre 13h et 14h, une émission test fut diffusée sur la fréquence 576, animée par Johnny Lewis sous le nom Radio Funk.
Oula, vous chez, I'm a spa. Please, will you get a bed with me? There's an invitation for you, goodness me. Marmalade, like it for breakfast, don't you, mate? Oh, yes, no, I like a nice drop of marmalade. You know what they say? Spread it on thick and lick it off quick. Hello, you're listening to Radio Sunk Testing into a dummy load on this Saturday afternoon. This is Chic and I Want Your Love.
Mais cet essai de diffusion n'eut pas de suite. Et malgré le fait que l'équipement radio était opérationnel, le manque de moyens financiers empêcha la concrétisation du projet. Mi-novembre, le navire à nouveau silencieux fut déplacé vers Shipwash afin de se mettre un peu à l'abri des tempêtes hivernales. Mais il fit bientôt son retour en vue de Felixstowe. Le 15 novembre, Radio Monique et Viewpoint, qui diffusent les programmes religieux assurant un revenu à Radio Caroline, se déplacent sur la fréquence 819 kHz, 306 mètres, pour faire cesser les interférences avec une radio finlandaise qui utilisait la fréquence 963 kHz.
De LP All Summer Days and All Summer Nights. En die komen er waarschijnlijk aan. Tenminste, als het een klein beetje mee zit, je hoorde Help Me Run the uit vervlogen tijden alweer. Het jaar van de hits, dat doen we zo meteen om kwart over één. 26 jaar terug in de tijd. Eerst Frida Payne.
Now that you're gone, all that's left.
Le 24 novembre 1987, une tempête qui gagne en puissance commence à chahuter sérieusement le Ross Revenge. Mais les deux radios continuent à émettre normalement. À 19h, comme d'habitude, Radio Monique termine ses programmes et annonce son retour pour le lendemain à 5h.
Tonight on Broadway, de heren Bee Gees, de voordelen van de Fortunes met Here It Comes Again. En daarvoor UB40 met Maybe Tomorrow. Als je die drie eerste woorden van die eerste drie zinnen bij elkaar zet, krijg je een hele leuke zin. Maybe Here Night. Je moet eigenlijk toe naar voren. Zo kun je maar los fantaseren. Het is 10:55. 3 on 3.
Les programmes religieux diffusés par Viewpoint prennent normalement le relais. Et de son côté, Caroline continue aussi à émettre sur 558. Mais après la fin des programmes de Viewpoint, l'émetteur de 819 kHz a été arrêté. Et deux heures plus tard, c'est Caroline qui cesse aussi ses programmes sur 558. La raison de ces interruptions était la rupture des câbles d'antenne. Mais une heure plus tard, l'équipage entendit un énorme bruit venant de l'extérieur du navire. Tout le monde se précipita sur le pont pour constater que l'énorme mât de transmission de 91 mètres de hauteur, la fierté du Ross Revenge, s'était effondré. En tombant, le mât d'antenne avait endommagé le diplexeur, une pièce permettant aux deux émetteurs d'utiliser la même antenne de diffusion. Mais l'eau s'était aussi infiltrée par un hublot provoquant une inondation à l'intérieur du bateau, endommageant notamment le studio de Radio Monique ainsi que la discothèque. Cet événement signifia l'arrêt définitif des émissions de Radio Monique. Mais certains de ses membres reprendront la mer pour d'autres aventures radiophoniques. En attendant, la situation était très problématique sur le Ross Revenge, totalement silencieux. Il fallait au plus vite réinstaller un émetteur pour pouvoir reprendre la diffusion de Caroline, car tant que la station serait muette, il n'y aurait plus aucun revenu publicitaire ni aucune rémunération de la part des organisations religieuses. Encore une fois, Peter Chicago fit des miracles, et alors que les conditions météorologiques de la mer du Nord restaient mauvaises, il parvint à bricoler un émetteur de fortune, et le 3 décembre 1987, Caroline était de retour avec un signal très faible, certes, mais peu importait. Il fallait que la station revienne au plus vite.
Caroline 558 playing the best of the old and the best of the new, 24 hours a day, live from the North Sea, 21 minutes before 9. Now Tim Allen here through until 9 o'clock, and then Peter Phillips will be along. Here's Maynard Williams now, theme from the BBC TV series Truckers, The Longer the Road.
Le redémarrage de Caroline fut toutefois un peu chaotique. La faible puissance de l'émetteur, mais aussi le manque de DJ à bord du Ross Revenge, rendaient la station fragile. À la fin de l'année, toutefois, les choses s'améliorèrent côté programme, et les techniciens s'employaient à reconstruire un mât de transmission malgré une météo toujours hostile. Un problème subsistait malgré tout. Le Ross Revenge n'était techniquement plus capable d'accueillir une seconde radio. Or, l'hébergement d'un programme destiné au public néerlandophone était depuis des années une source de revenus fiable pour Caroline. Au Proche-Orient, la Voix de la Paix bénéficia encore une fois d'une longue grève de Col Israël, et la station d'Abinathan put attirer vers elle à la fois de nouveaux auditeurs et des annonceurs. Malgré tout, l'embellie fut de courte durée, car les programmes manquaient de cohérence. À côté d'une playlist pop, on trouvait quelques émissions en russe, mais aussi des séquences consacrées à la musique arabe. Et Abinathan prenait aussi régulièrement l'antenne pour s'exprimer sur les sujets qui lui tenaient à cœur. Il semble que ce format un peu désordonné conduisit un nombre croissant d'auditeurs à délaisser The Voice of Peace pour écouter d'autres radios musicales mieux formatées. De plus, et alors qu'Abinathan avait toujours voulu donner à cette radio une dimension régionale, il fallait bien admettre qu'en ce début d'année 1988, The Voice of Peace était surtout écouté à Tel Aviv et dans sa région. Du coup, la Voix de la Paix apparut de plus en plus comme une radio locale.
Just coming up to 12 after 11, Voice of Peace 1540 AM, 100 FM stereo from somewhere on a very nice, very hot Mediterranean. We'll carry on with this one from the album Whispering Jack. This is John Farnham taking the pressure down.
Something
Au début du mois de janvier, les propriétaires du MV Communicator envoyèrent des gardes à bord du navire de peur qu'il soit arraisonné. Le 12 janvier, les investisseurs du projet Harmony 981 prirent possession du bateau et annoncèrent qu'ils allaient le déplacer jusqu'aux Baléares pour redémarrer une radio pour cette région très touristique. Mais c'est finalement à Harwich qu'il fit son retour le 3 février. Et deux jours plus tard, il fut déclaré inapte à la navigation par l'inspection maritime et fut emmené au port d'Edwardton sur la rivière Stour où tout le matériel radio fut démonté. Le 6 février, le navire était conduit dans un chantier naval de Shotley en vue de sa démolition. Mais comme il n'avait plus d'ancre, il fut échoué dans la vase en attendant d'être démantelé. Toutefois, si cet acte signalait bel et bien la fin de Laser Hot Heat et des autres projets associés, le MV Communicator ne sera pas démonté et il reprendra même du service en tant que navire radio, mais pour accueillir cette fois des stations légales. Le 1er mai 1988, une nouvelle radio est lancée depuis le Ross Revenge, World Mission Radio. Elle utilise les ondes courtes. C'est le 30 novembre 1985 qu'un premier essai de diffusion en ondes courtes avait eu lieu sur la fréquence 6273 kHz. Elle consista en un relais du programme régulier de Radio Caroline. Mais l'émetteur était peu puissant et la réception fut de mauvaise qualité. Vincent Mansay, à l'époque représentant de Caroline aux États-Unis, dévoila que ce premier essai préparait le lancement d'un service mondial de Radio Caroline pour le mois de février 1986. Mais aucun programme en ondes courtes ne fit son apparition, malgré le fait que des installations techniques avaient été réalisées par Alan Weiner lors de son séjour sur le Ross Revenge. Weiner qui va créer Radio New York International. En septembre 1987, de nouveaux essais en ondes courtes furent effectués en vue de diffuser Viewpoint, le service dédié aux programmes religieux. Le 28 octobre, ce sont les programmes réguliers de Caroline qui sont diffusés sur les ondes courtes, toujours pour des tests. D'autres essais auront lieu le 22 février 1988 et le 6 mars sur 6210 kHz. Ce jour-là, des annonces dans différentes langues invitent les auditeurs à envoyer des rapports de réception.
Sie hören eine Sendung von Radio Caroline an der Nordsee. Bitte schreiben zum Radio Caroline, New York 11518, USA. Das ist Radio Caroline, New York 11518 in der USA. Und danke für Ihre Zeit.
How are you doing out there? Radio Caroline, test broadcast on the shortwave. 6210 kilohertz with a 49 meter band. Here's Tom Petty.
Des rapports d'écoute vont parvenir de nombreux pays européens, mais aussi des États-Unis, du Wisconsin notamment, et aussi d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Suite à ces tests convaincants, World Mission Radio est lancé le 1er mai 1988 sur la fréquence onde courte de 6215 kHz. La radio diffuse en grande majorité des programmes religieux américains, mais aussi ceux de l'évangéliste néerlandais Johan Masbach. Quelques semaines plus tôt, des DJ néerlandais, dont quelques anciens de Radio Monique, sont arrivés sur le Ross Revenge et ont commencé à animer en anglais sur l'antenne de Radio Caroline. Ils préparaient le lancement d'un nouveau programme en néerlandais. L'installation d'un nouveau mât d'antenne, présenté par ses concepteurs comme révolutionnaire, devait permettre à Caroline d'utiliser deux fréquences simultanément. Les concepteurs de cette antenne prétendaient qu'elle ne nécessitait pas l'installation de haubans pour la maintenir. Mais le mât d'antenne était à peine installé qu'il se fissura. Un renforcement était donc bel et bien nécessaire. À partir du 21 mai, les programmes de Radio Caroline, en plus d'être normalement diffusés sur 558 en ondes moyennes, sont aussi relayés sur 819. Et le 30 mai à 10h du matin, Radio 819, le nouveau service en néerlandais, est lancé avec la diffusion d'émissions en direct et de programmes préenregistrés. Les animateurs annonce qu'il s'agit de tests.
Het is weer feest hier Radio live vanaf de Noordzee. Dit is een testuitzending op 819 kHz. En wat roept deze plaat voor je op? Natuurlijk vakantieherinneringen. Of het weer ook geschikt is voor vakantie, dat zullen we zo direct gaan ondervinden. Na deze van de Beatles.
Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way.
Les essais se poursuivent toute la soirée et recommencent le lendemain matin. Mais il cesse brutalement à 9h15. Le mât en fibre de carbone avait fondu et sa partie supérieure s'effondra sur le pont. Une antenne provisoire bricolée à la hâte prit feu dès sa mise en service le jour même. L'équipe décida alors d'en revenir à un mât plus classique. Et il fallut contourner la surveillance des autorités pour en acheminer les différentes parties sur le navire. Ce qui n'était pas une mince affaire. Toutes ces difficultés retardaient la mise en onde de Radio 819, ce qui embarrassait tout le monde. Les Néerlandais, qui avaient loué les installations du Ross Revenge et qui avaient des publicités à diffuser, étaient frustrés. Et l'organisation Caroline était inquiète car le programme néerlandais qui devait débuter était une source de revenus indispensable. Les semaines passant et les travaux de construction d'un nouveau mât traînant en longueur, il fut décidé que Radio Caroline céderait sa fréquence en journée pour la diffusion des programmes néerlandais. Le 9 juillet, Radio 819 se transforma donc en Radio 558 et débuta ses émissions à 9h. Caroline dut renoncer à sa fréquence en journée pendant tout l'été.
Een van de dingen wat wij hier gaan doen op 5 en 8 overdag is het Nederlands product ondersteunen. Daar begonnen we gelijkkrachtig mee. De nieuwe satellietschijf, je hoort haar elke week, de hele week lang, de satellietschijf. Deze week is het Mariska van Kolk en You're as cold as ice. Europa, goedemorgen. Daar zijn we dan op 558 kHz. Tot 7 uur vanavond brengen we je de allerbeste muziek in deze testuitzendingen. Mijn naam is Ewen van der Bliek. Ik ben bij u tot 12 uur.
Aux États-Unis, Radio New York International fait reparler d'elle. Après le fiasco judiciaire lancé par les autorités américaines, le navire de la radio a séjourné pendant près d'un an dans le port de Boston pour y être rééquipé. $70,000 furent investis. Le 17 juillet 1988, il quitta le port traîné par un remorqueur. Mais il fut immédiatement pris en chasse par les gardes-côtes qui exigèrent de monter à bord pour, selon eux, vérifier les documents de navigation. Visiblement, ils ne trouvèrent qu'un seul document d'immatriculation périmé et ordonnèrent au capitaine du remorqueur de ramener le Sarah au port de Boston. Alan Weiner affirma que cette intervention avait été téléguidée par la Federal Commission of Communication. Le 10 septembre, le Sarah quitta enfin le port de Boston et le lendemain, il jeta l'ancre dans les eaux internationales au large de Long Island. Mais il resta silencieux. Le directeur des opérations affirma que l'organisation voulait prendre le temps de faire les choses dans la légalité, tant au niveau de la diffusion du programme que de l'immatriculation du navire, afin de ne pas provoquer une nouvelle intervention des gardes-côtes ou de la FCC. C'était les DJ de la haute mer, 38e épisode.